déjà vu à deux reprises cette question de la prédestination. Ce n'est pas une question qui est petite, c'est une question d'une très très grande importance. Ce n'est pas seulement que nous voulons être contre une doctrine, mais nous voulons apporter des précisions sur une vérité qui est controversée. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers cette pensée de la prédestination. Et c'est un drame dans le corps de Christ, parce que ce sont des frères et des sœurs qui sont très proches de nous. Il y a des personnes qui croient pratiquement à la même chose que nous et qui sont beaucoup plus éloignées que nous. Qui croient à d'autres choses que nous n'acceptons pas. Tandis que ces personnes qui se sont mises dans la prédestination aujourd'hui, eh bien, étaient des frères et sœurs qui étaient très proches, avec lesquels nous avons travaillé, avec lesquels nous avons une collaboration efficace même, et qui continuent même à être des serviteurs de Dieu efficaces. Donc, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une petite chose, que la question de la prédestination change beaucoup de choses. C'est pas seulement que c'est une doctrine différente de la nôtre, mais cette manière de penser amène une autre lecture de la Bible. Si vous lisez certaines paroles de la parole de Dieu, eh bien, ceux qui croient à la prédestination le disent d'une manière, l'interprètent d'une manière, et ceux qui ne le croient pas interprètent d'une autre manière. Si par exemple, moi je vous parle de prière, mais la prière n'a pas la même signification. C'est quand quelqu'un pense qu'il y a un plan éternel qui est établi de toute éternité, qui est inchangeable, immuable, tout est décidé d'avance. Et même Calvin, je l'ai dit la dernière fois, dit que même le moindre petit souffle de vent est prévu de toute éternité, que la parole que je prononce est prévue de toute éternité. Avant même qu'il y ait le moindre atome de quoi que ce soit, eh bien, c'était prévu. Et là, je vous demande, où est la place de la prière? Le Seigneur Jésus nous dit de prier pour tous les hommes, de prier pour tout le monde, prier que Paul demandait qu'il prie, qu'il puisse annoncer l'évangile comme il faut. Qu'il fallait prier les uns pour les autres. Mais si tout était déterminé d'avance, d'une manière complète, absolue et définitive, où est la place de la prière? Quelle est son importance? Si moi je parle de prière, je vais avoir une définition différente de quelqu'un qui parle de la prédestination et qui croit à la prédestination. La prière n'est pas la même. C'est tout à fait différent, c'est autre chose. J'ai lu des choses que Calvin a écrites sur la prière. Alors, bon, ben, comme il ne peut pas croire que Élie, quand il a prié, il a obtenu par la prière qu'il pleuve. Et par la prière, il a d'abord obtenu qu'il ne pleuve pas. Et puis par la prière, il a obtenu qu'il pleuve. Alors, la prière ne pouvait rien changer, puisque Dieu avait tout déterminé d'avance, pour ceux qui croient à la prédestination, pour un certain Calvin. Donc, il pose la question, mais qu'est-ce que Élie a fait sur la montagne? Et on se dit, mais c'est une très bonne question. Si tout était déjà prévu d'avance, que de toute façon, qu'il prie ou qu'il prie pas, la pluie allait venir, qu'il prie ou qu'il prie pas, la pluie ne viendrait pas. Donc, il n'y avait pas de question de pourquoi prier? Alors il dit, c'est le terme même du XVIe siècle, afin qu'il ne s'endorme pas en paresse. Et même là, c'est quelque chose qui va contre sa pensée de la prédestination. Parce que prédestiné, il ne pouvait pas s'endormir en paresse, parce qu'il aurait été prédestiné à ne pas s'endormir en paresse. Il ne pouvait pas faire autrement que d'être ce qu'il était. Donc, vous voyez, cette question est beaucoup plus importante que vous le pensez. Ça change même la pensée sur la prière. Mais ça change la pensée sur la foi. Dieu nous demande d'avoir foi. Mais pour un calviniste, Dieu donne la foi. Vous avez comment dire, de la foi. Voilà. C'est qui vous est imparti. Elle vous est donnée. Voilà. C'est un don de Dieu. Vous n'avez rien hors de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de foi. Donc, mais quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, quand il est question dans le chapitre 11 de la foi, eh bien, les gens sont tenus pour responsables de la foi. Quand Paul parle d'Abraham, il parle de la foi d'Abraham et que Abraham a obtenu une récompense parce que il a eu la foi. Il a cru à celui qui, et même Moïse, a cru à celui qui avait fait les promesses. Il a méprisé tout ce qui venait de l'Égypte. Mais comment pouvait-il mépriser ce qui venait de l'Égypte s'il y a une prédestination? Il aurait été prédestiné à toute façon à mépriser ce qui venait de l'Égypte. Et Dieu ne pouvait pas lui en tenir et lui dire, Moïse a méprisé la gloire de l'Égypte. Il a préféré l'opprobre de Christ, c'est d'être au milieu du peuple et de supporter même les outrages avec le peuple de Dieu. Mais s'il est prédestiné de toute éternité, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a fait très bien en méprisant? Il ne pouvait pas faire autrement que de faire ce qu'il a fait. Donc il n'y a rien à dire. Pourquoi Dieu va-t-il louer la foi de Moïse, une foi dont il n'est pas responsable, et des actions qui sont prévues de toute éternité? Donc quand vous voyez comment dire, ces choses, vous dites, mais on ne lit pas la parole de Dieu de la même manière. Ça va beaucoup plus loin que une différence d'opinion. Hein? Alors, nous, nous croyons que l'homme est responsable de ses choix. Et que si quelqu'un a choisi d'agir d'une certaine manière, il est responsable. Responsable devant Dieu. Nous sommes responsables de notre vie de prière. Nous sommes responsables de la foi. Nous sommes responsables des actions que nous commettons, les bonnes aussi bien que les mauvaises. Un jour, nous devons rendre des comptes pour nos actions. Je profite que notre frère est là pour dire quelque chose. Mais par exemple, moi, je suis au volant de ma voiture et je brûle un feu rouge. Et bon, un gentil policier vient m'arrêter et me dit, ah, le feu était rouge. Et je dis, mais je suis prédestiné. Eh ben oui, j'étais prédestiné. De toute éternité, Dieu avait prévu que ce feu, je le passerais au rouge. Je l'ai passé au rouge. Il va me regarder, il va me dire, est-ce que vous vous moquez de moi? Vous êtes sérieux? Il faut vous enfermer tout de suite ou faut attendre encore que ça se manifeste plus gravement? Les actions que l'on commet et ce que l'on fait, eh bien, nous sommes responsables. Et on ne peut pas dire, eh bien, c'est de toute éternité que c'était prévu comme ça. Vous voyez le non-sens de la chose. Alors bien évidemment, les personnes qui croient à la prédestination vont trouver toutes sortes de bonnes raisons. Mais quand vous lisez les livres de ces personnes, eh bien, c'est un ensemble de pensées philosophiques très difficiles à comprendre même. C'est quand vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pour Calvin, pour éviter qu'on l'accuse de fatalisme, eh bien, il dit, mais non, mais le fatalisme, c'est une idée que l'on nous applique, que c'est tout à fait faux. Nous ne sommes pas fatalistes. Nous ne croyons pas, je vous passe la phrase parce qu'elle est très très compliquée, que donc croyez auquel croyaient les stoïciens. Bon, parce que les stoïciens étaient des fatalistes. Mais il n'y a pas que. Hein, la plupart des religions de ce monde sont fatalistes, depuis le bouddhisme jusqu'à l'islam, et vous en passez. Le fatalisme est quasiment la pensée des religions de ce monde. C'est les religions non chrétiennes. Hein. Vous allez chercher, vous trouverez le fatalisme. Mais pour expliquer ces passages bibliques, alors ils sont obligés de prendre des versets et même de les sortir de leur contexte. Il y a un verset qui dit, Dieu fait tout ce qu'il veut. C'est le psaume 113, je crois, si ma mémoire est bonne. Dieu fait tout ce qu'il veut. Alors ce verset est pris pour vraiment Dieu fait tout ce qu'il veut. Oui, mais comme le contexte n'est pas cité, le contexte c'est par rapport aux idoles, qui elles ne font pas ce qu'elles veulent. C'est de la pierre, du bois, de l'or, de l'argent, etc. Elles ne font pas ce qu'elles veulent. Donc les idoles ne peuvent pas avoir une volonté propre. Alors Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il est le Dieu vivant. Les autres sont des dieux morts. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On les transporte d'un endroit à un autre, on les place à un endroit et ils y restent. Et si un jour un adorateur d'une idole arrive dans son temple et trouve l'idole déplacée et aller à un autre endroit, il va se demander qui l'a fait. Il ne va pas se dire, mais elle a bougé l'idole. Il va se poser la question, il y a quelqu'un qui a déplacé l'idole. Sa première pensée, c'est l'idole, maintenant elle commence à bouger. Elle va d'un endroit à l'autre. Sa première pensée, ce ne sera pas celle-là. Ce sera qui l'a déplacée. Parce qu'on sait très bien qu'elle ne se déplace pas toute seule. Il faut qu'une intervention extérieure. Le bois ne bouge pas tout seul. Hein. Donc, et les autres matériaux. Donc ça, toute cette question, eh bien, est très importante. Ce doit être vraiment bien résolu dans nos cœurs que Dieu a créé des êtres humains avec une liberté et une capacité de choix, de dire oui ou non. Et quand on présente l'évangile, la personne doit prendre une décision et dire devant Dieu oui ou non. Et c'est très important. Parce que si les personnes sont prédestinées à être sauvées ou prédestinées à être perdues, bien de toute façon, qu'on annonce ou qu'on n'annonce pas, ça se fera quand même. Qui résiste à sa volonté, hein? Voilà, c'est le verset qu'on nous sort, hein? Qui résiste à sa volonté? Donc cette question est plus importante parce que encore que vous pensez, parce que même ça change notre manière de voir le monde perdu. On ne voit pas les âmes de la même manière. C'est comment on nous dit aimer les inconvertis, aimer les perdus, chercher leur salut. Mais vous dire, mais qu'est-ce que vous faites? De toute façon, ils seront sauvés, hein. Vous allez annoncer l'évangile? Mais une bizarre idée, ça. Ils se convertiront quand même. De toute façon, c'est destiné et prédestiné. Donc, il n'y a rien à faire, rien à attendre. Ils se feront et c'est tout. Et tandis que nous, eh bien, nous croyons que nous devons aller au secours des perdus. On doit leur annoncer l'évangile. On doit leur dire qu'ils sont perdus. On doit leur dire qu'ils sont en rébellion contre Dieu et qu'ils ne cherchent pas Dieu, qu'ils ne sont pas nés de nouveau et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ça change même notre service chrétien. La pensée de la prédestination est décourageante. Parce que si vous êtes fait pour être perdu, ben vous êtes perdu. Si vous êtes fait pour être un mauvais chrétien, vous serez un mauvais chrétien. Vous ne pourrez rien changer. Souverainement, Dieu a décidé cela et vous ne pourrez rien changer. Qui résiste à sa volonté? Hein, vous répliquera. Vous avez la foi, ah ben Dieu m'a donné la foi. Eh ben un autre, il dira, ben moi, Dieu ne m'a pas donné la foi. Et c'est comme cela. Et donc, ça ne motive pas, ça n'interpelle pas. Et vous lisez des passages bibliques et ils vous laissent complètement froid parce que votre cœur est endurci par cette pensée-là, il ne peut pas y avoir de changement. On ne peut pas obtenir des réponses aux prières. On prie, voilà, parce qu'il faut prier. Et si vous avez eu l'occasion, et j'ai eu l'occasion de prier avec des personnes qui sont calvinistes, mais leur prière, il n'y a rien qui. On ne prie pas, hein. On ne prie pas pour obtenir, parce que c'était déjà tout décidé. C'est quelque chose de triste, hein. Donc c'est pour cela que j'ai voulu quand même revenir sur cette question-là, parce que si l'homme est perdu, c'est parce qu'il a fait le mauvais choix. Un jour, Adam et Ève étaient au jardin d'Éden. Dieu les a créés et les a placés dans ce jardin. C'était le jardin du test. Ils étaient là pour qui ils allaient suivre. Et l'arbre était l'objet par lequel, eh bien, il pouvait être avoir faire ce choix. C'est alors Dieu n'a pas placé l'arbre dans le jardin pour tenter l'homme, mais pour que l'homme triomphe. C'est quand ce que l'on dit, hein, on enseigne, c'est que les Adam et Ève étaient innocents, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ni dans le bien ni dans le mal. Et c'était par cet arbre qu'ils devaient choisir le côté dans lequel ils allaient se trouver. Donc ils n'avaient ni fait ni bien ni mal. Mais le jour où ils ont pris le fruit, eh bien ils sont tombés dans le mal, dans le péché. Mais ils auraient pu ne pas le prendre. C'est quelque chose de très important. C'est imaginer ce qui n'est pas arrivé. Voilà. C'est Satan les tente et il dit non, 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 non. Dieu a dit qu'il ne faut pas y toucher, on n'y touche pas. Et c'est une question réglée d'une manière définitive. C'est pas la peine d'y revenir. Ils auraient fermé la bouche, ils auraient fermé la porte et ils n'auraient pas pris le fruit. Et le soir, Dieu serait venu et Adam a dit, ben, il y a quelqu'un qui est venu, un serpent qui avec des pattes qui est venu nous parler et nous dire qu'il fallait prendre du fruit. Et nous, alors là, on lui a dit non, hein, parce que ce que tu as dit, eh bien, pour nous, était important. Imaginez que ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui serait arrivé? Eh bien, pour toujours, les humains auraient reçu la justice par Adam, par hérédité. Comme le péché est entré dans le monde et le péché a corrompu le monde, de même, l'acte d'obéissance aurait fait exactement le contraire. Et nous aurions été vainqueurs sur Satan, et Satan aurait été jeté hors du jardin d'Éden et hors de beaucoup de choses. Hein. Mais l'être humain, à ce moment-là, aurait découvert quelque chose. La connaissance du bien et du mal. Alors Satan les a tentés en leur disant, mais vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Mais s'ils n'avaient pas pris, ils auraient connu à ce moment-là le bien et le mal, par l'obéissance. Ils l'ont connu par la désobéissance et on dit, voilà, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Et beaucoup de fausses religions, et les religions, surtout dans le paganisme, ils disaient que la connaissance, l'homme, en désobéissant à Dieu, a volé la connaissance. Il s'est emparé de la connaissance comme d'un acte fort et décisif. L'homme a la connaissance maintenant. Mais s'il n'avait pas désobéi, s'il avait obéi, eh bien, il aurait eu la connaissance. Les paroles de Satan étaient des paroles inutiles. C'était des paroles de désobéissance. Et Adam et Ève, quand ils sont tombés, eh bien, sont entrés dans le péché et dans la désobéissance. Et la connaissance qu'ils ont, eh bien, c'est une mauvaise connaissance. C'est une connaissance qui amène de l'orgueil, de la suffisance, de la supériorité sur les autres. Cette connaissance, elle n'est pas bonne. Et même Paul est obligé de dire, la connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est la fausse connaissance. Et c'est ce que Adam et Ève ont découvert en prenant le fruit dans le jardin d'Éden. Mais s'ils ne l'avaient pas pris, eh bien, ils auraient découvert la connaissance, mais la bonne connaissance. C'est celle qui n'amène pas à l'orgueil, celle qui n'amène pas à la supériorité, celle qui n'amène pas à la suffisance. Ce n'est pas une perte, ce n'aurait pas été une perte que de ne pas prendre le fruit. C'est au contraire, ça aurait été un immense avantage, parce que ce que on a eu, c'est le péché. Donc l'homme était responsable pour ses actes. Quand Adam et Ève ont pris le fruit, Dieu les a tenus pour responsables. Ils ont commis un acte. Et ils en ont payé les conséquences. Et nous payons les conséquences encore aujourd'hui. Parce que toute cette hérédité de péché s'est propagée jusqu'à aujourd'hui. Je viens de lire un article, bon, j'ai pas tout compris et il faudra que je le relise. Mais c'est par le chromosome Y que beaucoup de choses se manifestent. Et c'est donc le chromosome masculin. Et donc, quand il y a des défauts que l'on remonte, on peut faire remonter par la biologie, par l'analyse de l'ADN, etc. On remonte et la personne dit qu'elle est remontée jusqu'à Adam. Et en cherchant quelles étaient les caractéristiques physiques d'Adam. Sa taille, la couleur de sa peu près la région dans laquelle il vivait, etc., etc. Et bon, je crois que c'est à peu près possible, hein, mais je crois qu'il s'est trompé. Il n'est pas remonté jusqu'à Adam, il est allé jusqu'à Noé. Il croit qu'il est allé jusqu'à Adam, mais il est allé jusqu'à Noé, parce qu'Adam ne peut pas remonter plus loin, parce qu'il y a Noé qui bloque le chemin. Mais en fait, la parole de Dieu nous avertissait déjà depuis longtemps que c'est par Adam que le péché est entré dans le monde, et que le péché s'était étendu à toute l'humanité. Et donc, c'est ce fameux, ce côté masculin qui fait que le péché est entré dans le monde par Adam et il se poursuit. C'est jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de ça parce que même les scientifiques qui font des recherches très très profondes, qui vont très 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 loin, savent que c'est par l'homme que ça se manifeste. Et en fait, la Bible nous disait que déjà, c'était par l'homme que le péché est entré dans le monde. C'est une hérédité dans le péché. Nous recevons ce facteur péché dans notre vie. Et nous sommes humainement dans le péché à cause d'Adam. Nous recevons une nature pécheresse. Parce qu'à un certain moment, eh bien, l'homme a fait le choix de désobéir à Dieu. C'était un choix conscient. Il n'avait pas tout compris, mais Dieu l'a tenu responsable pour le choix qu'il a fait. Alors Dieu a même tenu compte qu'il n'a pas tout compris. Parce qu'il y a une différence entre le châtiment d'Adam et Ève, parce qu'ils sont tous les deux dans le même cas, et le châtiment de Satan. Nous avons la possibilité de la repentance, tandis que Satan n'a pas de repentance. C'est parce que lui savait ce qu'il faisait. Quand il est tombé dans le péché, il savait exactement tout ce qu'il faisait. Et il n'a pas été trompé. Tandis que Adam, ayant été trompé, eh bien Dieu lui donne la possibilité de la repentance. Il est tombé, il a péché, mais il y a une possibilité de repentance. Et donc voilà notre libre arbitre. C'est comme cela que les choses que l'on appelle cette doctrine, c'est la doctrine du libre arbitre. L'homme fait ses choix et il est responsable pour ses choix. Nous avons des influences dans nos choix, l'influence de notre famille, notre culture, notre société, notre époque et pas mal d'autres choses, les amis que l'on fréquente, notre environnement, etc., notre contexte socio et religieux, etc. On a de fortes influences autour de nous, mais néanmoins, nous sommes tenus responsables pour nos choix, entièrement responsables. Un jour, l'être humain que vous êtes va se trouver devant le trône de Dieu. Et va devoir rendre des comptes pour les actions qu'il a commises, librement, avec son libre arbitre. Et à ce moment-là, il sera jugé et il sera condamné sur ses actes. Si le salut est entré dans notre vie, si un jour Jésus-Christ est devenu notre sauveur, si nous avons été lavés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, alors les choses sont différentes. Parce que notre culpabilité, notre péché, a été porté par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et ce jour-là, eh bien, il est mort pour que nos péchés soient effacés, pour que librement un être humain s'approche de Dieu et puisse dire: je te choisis comme mon sauveur. Je veux que tu me sauves maintenant. Lave-moi de mes péchés. C'est le libre arbitre. Et c'est par Adam, par un choix libre, a désobéi à Dieu, est entré dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, par un choix libre, a donné sa vie pour que nous puissions être rachetés. Adam est le chef d'une humanité perdue. Jésus-Christ est le chef d'une nouvelle humanité sauvée, réconciliée avec Dieu par son sang. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, nos péchés sont effacés totalement. Mais c'est toujours un acte libre. Ce n'est pas un acte prédestiné. Dieu a prédestiné ça de toute éternité et nous ne faisons que faire un acte qui avait été prédestiné. Pas du tout. C'est si l'on est sauvé, si l'on est réconcilié avec Dieu, c'est parce que nous avons fait ce choix. Et ceux qui ne veulent pas être réconciliés ne peuvent pas tenir Dieu pour responsable de leur perdition. Ils sont perdus parce qu'ils l'ont voulu. Ils n'ont pas accepté la lumière que Dieu a mise sur leur chemin. Je me rappelle quand dans ma vie, eh bien, j'étais perdu. Il y a eu une époque où j'étais perdu. Et un jour, j'ai été sauvé. J'ai compris que j'étais perdu. J'ai compris que j'allais en enfer et que mes péchés dépassaient tout ce que l'on pouvait imaginer. Alors, je suis entré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. Je connaissais l'Évangile. J'avais été enseigné dans l'Évangile depuis mon enfance. Je suis entré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai reconnu ma culpabilité et j'ai accepté par la foi que Jésus-Christ devienne mon sauveur. Et ce jour-là, j'ai été sauvé. Je me suis mis à genoux perdu. Je me suis relevé sauvé. Je savais quand je me suis mis à genoux que j'étais perdu. Quand je me suis relevé, je savais que j'étais sauvé. Que le sang de Jésus-Christ avait effacé chaque péché. Que j'étais réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Et je peux vous dire, je chantais, je chantais, je chantais des cantiques que je connaissais dans. C'était par un acte libre, par un choix que Dieu. C'est sous le regard de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu de toute éternité et puis voilà, inexorablement, sans que. Voilà. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et depuis des années, maintenant ça fait plus de 40 ans, hein, on approche 50 bientôt, c'est que le Seigneur Jésus est devenu mon sauveur. Eh bien, je peux vous dire, depuis, j'ai toujours su que je suis sauvé. Ma paix avec Dieu est complète, toujours. Il est toujours avec moi. Oh, ça ne veut pas dire que de temps en temps, les choses ne se sont pas ternies. Mais j'ai mis les choses en règle et j'ai retrouvé la paix de Dieu. Il y a eu des hauts et des bas, mais je suis toujours sauvé. Parce que un jour, par un choix libre, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et j'ai été sauvé. C'est Dieu a tenu compte de ces paroles, de cette prière, et il l'a exaucé tout de suite. C'est très important, vous savez, que cette pensée que nous sommes libres de nos choix et que nous sommes responsables pour nos choix et que Dieu un jour jugera ce que nous avons fait du Seigneur Jésus-Christ, de sa croix, du sang qui a coulé pour nous. Ça, c'est très important. Voilà.